Vous rappelez l'ensemble du programme de ce séminaire qui aurait dû commencer à 6 heures, mais on a dû vous avertir qu'on ne pouvait pas venir avant 6 heures. Et j'ai dû remplacer le Rav Tsoukaman qui devait faire la conférence à 8 heures. Mais j'espère qu'il nous donnera une conférence, je ne dis pas à la place, chacune est pour elle-même, le soir de Shavuot. Alors, en tout cas, nous avons choisi un certain nombre de sujets concernant Pessah. Ce soir, je vous parlerai de la sortie d'Égypte comme fondement de la foi juive, de la foi d'Israël, c'est marqué. Rav Tsoukaman devait parler de la parole libératrice, de la libération de la parole à Pessah. Enfin, il en parlera à Shavuot. Demain soir, nous avons le cours habituel en hébreu sur le Maharal. Mardi soir, il y aura à 8h, à 20h donc, un débat sur les droits de l'homme qui sera dirigé par Marc Agy, qui est directeur de l'Alliance française, sur le sujet judaïsme et droits de l'homme à travers la vie et l'œuvre de René Cassin, parce que c'est le temps de la commémoration de, je vous avoue, ne plus me rappeler de quel anniversaire de René Cassin, mais il y a dans le monde entier, à peu près la même semaine, une exposition et des conférences sur l'œuvre et la vie de René Cassin. Et j'y participerai avec un sujet en contrepoint, disons, sur les devoirs de liberté. Je vous expliquerai cela mardi soir. On a l'habitude de parler des droits. Je parlerai corollairement des devoirs. Le mercredi, nous aurons le cours habituel de la Parashat HaShavuah, et qui sera consacré au Shabbat HaGadol, qui est le Shabbat d'avant Pessah. Et le soir, à 8h15, après mon cours, il y aura un enseignement de David Ben Ezra sur la sortie d'Égypte, modèle de fin d'exil pour notre temps. C'est-à-dire les rapports entre la sortie d'Égypte comme événement du passé et l'espérance de la Géoula contemporaine. Et jeudi, il y a à 6h un cours de Rivon sur la signification du Korban Pessah. Et à 8h, la clôture du séminaire se fera par une conférence de Shmuel Bigoda qui est intitulée « Liberté d'Égypte, difficile liberté ». Il vous dira vous-même, lui-même, que l'expression « difficile liberté » est une expression originellement de M. Levinas, et il vous expliquera ce qu'il veut dire par là. Bien. Alors, j'ai choisi un certain nombre de thèmes, j'espère que nous aurons le temps de les aborder tous, concernant le sujet que j'ai intitulé « La sortie d'Égypte comme fondement de la foi d'Israël ». Mais je voudrais d'abord, en premier point, expliquer le thème général de cette relation entre la foi d'Israël et l'événement de la sortie d'Égypte, en commençant par une remarque assez générale, et qui indiquera un certain nombre de... Je veux dire, il fera allusion à un certain nombre de connaissances auxquelles vous êtes déjà familier, mais cette remarque aura pour objet d'essayer un peu de les récapituler, de les lier ensemble, et d'en faire un principe fondamental. C'est qu'on ne peut pas ne pas remarquer l'importance de l'expression « Zecher Litiat Mitzrayim », qu'on traduit habituellement comme « souvenir de la sortie d'Égypte ». Je reviendrai sur la traduction plus exacte de ce mot de « Zecher » comme référence de base de pratiquement l'ensemble de la liturgie du judaïsme. Et c'était déjà bien évidemment le cas au niveau de la commémoration de la pratique de la Torah au temps du Beit Rishon, au temps du Beit Sheni, c'est-à-dire avant le temps du judaïsme à proprement parler, qui, comme vous le savez, je vous le rappelle, une religion de fidélité à ce qu'a été la foi et l'histoire des Hébreux. Effectivement, pratiquement à chaque texte liturgique, en commençant par le Kiddush du vendredi soir, et toutes les invocations ou les évocations de sainteté par rapport aux événements commémorés, revient centralement cette expression « Zecher Litiat Mitzrayim ». C'est la première remarque, à laquelle je relirai tout à l'heure, à propos d'un texte que nous reprendrons dans la Gemara, le fait que la mention de la sortie d'Égypte est toujours indiqué comme dernière mention liturgique avant le commencement de la prière chaque jour. Que ce soit la prière de Shacharit le matin ou la prière de Arbit le soir, il y a d'abord le rappel de la sortie d'Égypte qui clôture la lecture du Shemar, et immédiatement après, on commence l'introduction à la prière, à la Tfila. Vous avez dû remarquer cela. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails concernant ces références, mais d'abord les rappeler de façon générale. Alors nous allons admettre, comme postulat déjà élucidé, que tout se passe comme si, au niveau de la liturgie elle-même, lorsque la conscience d'Israël définit sa foi, elle se relie à l'événement de la sortie d'Égypte. Je partirai donc de cette première remarque. Et c'est l'objet d'un enseignement très important, tant chez Maïmonide pour sa part, que plus centralement chez Judas Lévi, et donc dans toute la lignée des grands enseignants de la méthode, disons, de Maïmonide, qui prend comme postulat de l'enseignement l'évidence des vérités métaphysiques absolues, et que dans la lignée d'enseignement de Judas Lévi, qui lui se base de façon beaucoup plus centrale sur la signification des événements historiques de révélation, mettant dans l'une lignée que dans l'autre lignée, on s'aperçoit que, et cela converge avec la remarque que nous venons d'avoir concernant la liturgie elle-même, que le fait de se rattacher, de rappeler l'événement, se rattacher à, donc, l'événement de la sortie d'Égypte, constitue une référence centrale. À partir de cette remarque, on pourrait se demander pourquoi la tradition a préféré donner le gros plan de la référence liturgique à l'événement de la sortie d'Égypte, qui a sa commémoration propre le soir du Seder de Pessah, mais cette remarque tend à vous remettre en mémoire que cette relation à l'événement de la sortie d'Égypte est beaucoup plus large que le jour précis, particulier de la fête de Pessah pour elle-même. On pourrait donc se poser la question, comment se fait-il qu'on a préféré cette référence à l'événement historique que je vous désigne, plutôt qu'à l'événement fondateur de l'histoire du monde, que nous trouvons aussi dans les mentions de la liturgie, et qui est le rappel de la création du monde, c'est-à-dire la définition de Dieu en tant que créateur du monde. Je reviens sur cette définition. Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, va prendre une place, semble-t-il, plus importante que Zecher le Maaseh Bereshit, en souvenir de l'œuvre de la création lui-même. Alors je partirai donc de cette analyse. Nous allons essayer de le comprendre par la remarque suivante. C'est que, en fait, fondamentalement, l'objet de la foi d'Israël, c'est bien évidemment que le monde a un créateur. C'est-à-dire, si nous définissions le rapport à la foi comme base de certitude, d'espérance quant à l'avenir, le fait que le monde est un créateur dessine, implique l'option de foi que l'histoire du monde aboutit sur un sens de plénitude, sur un sens d'accomplissement, sur un sens de vérité réalisée. Et nous verrons l'importance de ces termes que je viens d'employer. C'est-à-dire, si on se base sérieusement sur cette notion que le monde a un créateur, quelles que soient les apparences du fonctionnement de l'histoire du monde en tant que nature, thème que nous étudions dans différentes dimensions, le fait que ce souvenir-là soit profondément ancré dans la conscience, que nous savons qu'en dépit de tout, quelles que soient les apparences, le monde a un créateur, c'est cet article de foi, si j'ose dire, cette formule de la foi qui est le fondement de tout autre, à tout autre niveau. Si le monde a un créateur, le monde n'est pas abandonné. Et si le monde n'est pas abandonné, l'histoire a une providence. Et si l'histoire a une providence, inévitablement, elle a un aboutissement. Et c'est le fondement de la foi. Je vous citerai simplement une des références qui met, chez les commentateurs, qui met en évidence cela, que le fondement, les fondements de la foi, c'est la relation à l'idée du Créateur. C'est plus qu'une idée, c'est une certitude. C'est-à-dire, si on demande profondément à la conscience d'Israël en quel Dieu tu crois, premièrement apparaît Bereshit bara Elokim et Shamayim v'Ha'aretz. Et la suite du récit, c'est la suite du récit. Je me référais très brièvement tout à l'heure à un des commentaires de Rashi, que j'ai peut-être cité par allusion au dernier cours de Paracha, sur la Paracha Tachodesh. Rashi se demande comment se fait-il que le récit de la Torah commence au rappel du récit de la création du monde. Vous rappelez ce que nous avons étudié à ce moment-là, pour ceux qui ont suivi cette étude, je le résume très bien. Si on considère la Torah essentiellement comme un livre de commandements, comme un livre de loi, normalement, ce livre, en tant qu'entité ou unité, je ne vais pas dire livresque, mais je ne vais pas dire littéraire non plus, mais vous comprenez, Sefer, eh bien, aurait dû normalement commencer aux premières mitzvot qui ont été données à Israël, qui sont effectivement données au temps de la sortie d'Égypte et qui concernent l'événement de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire Pessah. Mais il y a une préface historique qui commence à la création du monde. Et j'essaierai de faire comprendre un peu la profondeur de la question de Rashi, qui est formulée ainsi. Loaya tsarir leatri le tatora ela meachodesh azelachem uma taam patar babereshit. Ça veut dire qu'il était nécessaire de commencer la Torah, j'ajoute donc, en parenthèse, en tant que livre des commandements, que par la première des mitzvot qui a été donnée à Israël à la sortie d'Égypte, que c'est le mois de Nissan qui commencera le compte du temps de commémoration. C'est ce que nous avons étudié au dernier cours sur la branche de Chodesh. Et pour quelle raison, demande Rashi, cela commence au commencement. Je veux simplement mettre en évidence le caractère très profondément interpellateur de cette question. Pour une fois, que parmi tous les livres que nous avons entre les mains, au niveau de l'ensemble de la culture humaine, il y en a un qui commence au commencement, Rashi pose une question en se basant sur le Midrash, en semblant dire que ce n'est pas normal que ça commence au commencement. Réfléchissez bien au caractère pas simple de cette question. Je l'explique très brièvement. La révélation de la vérité ne peut avoir comme commencement que le commencement de la révélation. La vérité, elle, est sur l'écran de l'éternité. L'idée qu'il y a un commencement à la vérité est une idée contradictoire. La vérité est éternelle. Parler d'un commencement de la Torah ne peut être entendu que dans le sens d'un commencement de la révélation de la Torah. Or, la Torah, effectivement, n'a commencé à être révélée qu'à partir des premières mitzvot. Et donc, s'il faut un commencement au livre de la Torah mise par écrit, le commencement logique aurait dû être les premières mitzvot. Et ensuite, dans le courant du récit ou dans d'autres livres de la Révélation, on aurait rappelé les enseignements fondamentaux que nous avons, en particulier le premier, fondamental, qui est que le monde a un créateur, que le monde a été créé. Et la raison pour laquelle cette question s'est posée est étudiée très abondamment dans beaucoup de directions, dans l'ensemble de l'enseignement du Talmud et du Midrash. Et je veux mettre simplement en évidence un aspect de cette question qui concerne notre sujet. En citant le commentaire de Nachmanide, le Ramban, qui pose cette question que je viens de poser sur le commentaire de Rashi. Et sachez bien que Rashi n'a pas inventé la question. Elle se trouve dans le Midrash, dans 7 sources différentes, formulées chaque fois avec une nuance qui est importante pour elle-même. Rashi le récapitule en disant: il n'était nécessaire de commencer la Torah que par la première des mitzvot. Et si donc elle a commencé par le récit de l'histoire au commencement, c'est qu'il y a une nécessité seconde. La nécessité seconde, pour ceux qui ont étudié ce commentaire, c'est que dès qu'Israël entre dans l'histoire avec sa Torah, comme la Torah ne concerne qu'Eret Israël et que le lien du peuple d'Israël avec Eret Israël, on se heurtera à la contestation des nations sur Eret Israël. Et relier le commentaire du Midrash que cite Rashi, la première préoccupation de la tradition, c'est comment débattre de cette contestation des nations sur Eretz Israël, dès qu'Israël, ayant trouvé son identité par la Torah, entre dans l'histoire, il s'agit d'Eretz Israël. Et d'autre part, la réalité de l'histoire. Il est évident que dès qu'Israël s'identifie, il se heurte à la contestation des nations concernant Eretz Israël. Il y a là plus qu'une dimension prophétique dans le commentaire lui-même. Parmi tous les enseignements nécessaires sur le premier mot du premier verset, Rashi, dans une intuition historique très très profonde, fondamentale, va directement à l'essentiel. Il faut comprendre la raison pour laquelle on a mis par écrit, en préface du livre des Mitzvot, un récit de l'histoire qui commence au commencement de la création du monde. Encore une fois, c'est une des dimensions du commentaire de cette source que je mets en évidence. Et Nachmanide, donc le Ramban, je ne veux pas dire objecte à la question de Rashi, mais l'aménage en posant une question sur la question de Rashi en disant: mais est-ce que la question se pose tout court? parce que il est bien clair que le premier enseignement de la Torah, c'est que le monde a un créateur, et que c'est la notion de base de toute la Torah, de toute foi. Si il n'y a pas cette certitude de la Bria, la Torah n'a plus de base. Et tout ce que nous appelons la foi d'Israël, la tradition d'Israël, s'écroule. Elle se réaménage autrement, sous forme d'une culture, qui serait fondée, comme les autres cultures, comme les autres traditions, sur une certaine conception du monde, sur une certaine philosophie, mais qui ne serait pas basée sur la foi à proprement parler, que le monde ayant un créateur, l'histoire a un sens. Et que ce n'est pas que entre les mains de l'homme, parce que si ce n'était que entre les mains de l'homme, il est évident qu'à la place de l'espérance qu'enseigne la Torah, il y aurait une désespérance absolue. Il suffit de voir ce que l'homme est capable de faire de l'histoire et du monde. Ce n'est pas simplement de l'écologie naturiste, c'est aussi de l'écologie historique. Et donc l'Armanide met cela en évidence, que la notion de Bria, que la notion de création est fondamentale. Et c'est pourquoi, pédagogiquement, il nous mène à nous étonner de la question de Rachid. Il dit, dans tous les cas, il était nécessaire que cette notion de création nous soit enseignée. Mais nous dit-il, ça c'est l'explication très spécifique de Nachmanide, il aurait été suffisant qu'elle nous soit enseignée à propos de tel ou tel commandement. Par exemple, à propos du Shabbat, nous avons un texte tel que nous l'avons, qui relie la première signification du Shabbat avant la deuxième, qui est le souvenir de la sortie d'Égypte, qui le relie à la création du monde. Vous savez très bien que la notion de signification du Shabbat, c'est pas l'objet de l'étude, je le signale en passant, se relie à la création du monde. Rappelez-vous les versets du Kiddush du Shabbat matin, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël que en six jours Dieu a créé le ciel et la terre, que le septième jour il a cessé son œuvre de créateur, non pas de son œuvre de providence, mais son œuvre de créateur, et le monde commence à fonctionner par des lois stables qu'il a instituées au commencement du commencement. C'est aussi un sujet pour lui-même. Et effectivement, Nachmanide va refonder la question du Midrash à travers sa propre objection, en disant que la question de Rachid doit être entendue ainsi. Ne faisons pas cette erreur de croire qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner que le monde a été créé, mais il n'était pas nécessaire de l'enseigner comme cela dans un récit préface au livre des lois en tant que loi. Et donc il était nécessaire que nous connaissions la signification de l'histoire totale depuis le début jusqu'à la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël pour pouvoir fonder l'attitude d'Israël dans la contestation des nations, dans cette identification d'Israël sorti d'Égypte, passant par le Sinaï et entrant en Eretz Israël pour devenir le peuple d'Israël authentique. Et ça signifie donc que nous avons deux niveaux, ce sera ma première observation, première analyse, nous avons deux niveaux. Le niveau de la croyance en la création du monde. Et d'autre part, le niveau du souvenir de l'expérience des événements de la sortie d'Égypte. Alors j'aurais tendance à l'expliquer de la manière suivante. Jusqu'à la sortie d'Égypte, on savait, au niveau de vérité, que le monde a un créateur. Mais on ne l'avait pas encore expérimenté. Si j'ose dire, cette foi dans la création existait. Elle s'est transmise à travers la lignée des initiés, depuis le premier homme jusqu'au patriarche. On savait, par tradition de foi, que le monde a un créateur et on y croyait. Mais c'était une expérience d'ordre de connaissance. Je ne dirais pas intellectuelle, abstraite, mais enfin c'est de cet ordre-là. C'était une idée, une notion, base d'une foi. La foi, c'est que le monde a un sens. La notion de base, c'est qu'il a un créateur. On savait que le monde a un créateur. Mais on n'en avait pas encore eu expérience dans l'événement de la réalité. C'est la notion que le monde a un créateur qui s'est réalisé dans le sens strict, qui s'est manifesté dans la réalité, dans l'intervention de ce créateur dans l'histoire des hommes. Allez, c'est l'expérience de la sortie d'Égypte qui a donné épaisseur de réalité à la connaissance par idée, pas n'importe quel ordre d'idée, les idées de la foi sont des connaissances, que le monde a un créateur. Je crois que c'est le premier point. Vous me direz si c'est suffisamment élucidé. C'est-à-dire, la foi, essentiellement, c'est la foi dans la création. Mais elle ne devient, elle ne prend, comme j'ai dit tout à l'heure, son épaisseur de réalité existentielle et spirituelle, l'étoffe qu'elle a depuis la sortie d'Égypte, qu'à partir de l'événement de la sortie d'Égypte. C'est à la sortie d'Égypte qu'on a eu preuve dans la réalité de cet ordre de vérité que le monde a un créateur. On pourrait dire que cette connaissance que le monde a un créateur, le Shabbat d'avant la sortie d'Égypte, qui a pour fondement, je dis ça méthodologiquement, qui a pour fondement le fait que le monde a un créateur, c'était une connaissance de foi qui attendait encore son expérience d'illustration et dans la réalité. Et c'est au moment de la sortie d'Égypte que cette notion hébraïque fondamentale que le monde a un créateur va prendre force de réalité. Voilà le premier point que je voudrais signaler. Et c'est là que cela nous mène, et là je me base surtout sur une analyse de Judas Lévi dans le Kuzari, cela nous mène à renouveler une réflexion indispensable sur l'objet de la foi dans le sens théologique, dans la tradition d'Israël. Est-ce que, et là c'est une analyse un peu plus difficile, vous m'indiquerez si c'est suffisamment clair. Est-ce que la foi d'Israël est un théisme parmi les autres, ou un déisme parmi les autres? Je préférerais d'ailleurs plutôt ce terme, d'après l'étymologie latine et grecque. Théisme, c'est l'étymologie grecque, déisme, c'est l'étymologie latine. Est-ce que la foi d'Israël, c'est un déisme parmi les autres, qu'un Dieu existe? Et ce qui spécifierait la théologie d'Israël, de ce monothéisme propre à Israël, c'est que précisément c'est un Dieu unique qui est et créateur et révélateur de la loi morale. Et donc c'est une dimension de connaissance théologique bien précise, qui telle qu'elle et comme telle a traversé l'histoire du monde, l'histoire de toutes les cultures, et vous le savez au bout de 4000 ans de l'histoire d'Israël, à quel point ce qui a été véhiculé par la conscience hébraïque a imprégné la culture universelle. Et, c'est-à-dire que, est-ce que c'est du même ordre que les croyances que d'autres traditions, que d'autres philosophies, que d'autres théologies, que d'autres peuples peuvent avoir concernant ce problème du sens du monde, est-ce qu'un Dieu existe? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'autre chose, de plus? Alors, par postulat, je l'expliquerai de cette manière. Tout se passe comme si, depuis le temps de la création du monde, le temps du premier homme, jusqu'aux événements de la sortie d'Égypte, à part quelques rares initiés, et je vous parlerai d'Abraham, on ne connaissait que ce niveau de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de la spiritualité qui va de l'homme à la recherche d'un Dieu comme fondement de l'espérance du monde et qui le trouve au niveau de la conviction de la foi. Et la Torah ne raconte pas du tout à travers et sur quelle base, de quelle expérience subjective, individuelle, cela pouvait être fondé. Et je veux dire que le mouvement de l'expérience religieuse, dans ce cas, pour la tradition hébraïque aussi, irait, comme pour les autres, de l'homme vers Dieu. Mais, au moment de la sortie d'Égypte, se dévoile quelque chose de tout à fait autre, un mouvement inverse. C'est le mouvement de la révélation de Dieu vers l'homme. Il y a des moments ponctuels, préfiguratifs de l'événement de révélation à une collectivité qu'a été la révélation de la sortie d'Égypte, mais là, tout se renouvelle. Il ne s'agit plus, encore une fois, de cette dimension de la foi par connaissance d'une idée vraie, le monde a un créateur, et qui est le fondement de l'espérance vers l'avenir du monde, que le monde a un sens et il aura une plénitude, olamazé, olamaba, en termes de tradition juive, c'est tout à fait autre chose. À ce premier niveau, mouvement de la conviction qui va de l'homme vers, je dirais, l'idée de Dieu, se substitue un tout autre mouvement. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est une autre manière de comprendre la première analyse. Okay, c'est que, jusqu'à la sortie d'Égypte, C'est l'idée de la création du monde qui est le fondement de la foi. À partir de la sortie d'Égypte, c'est la preuve de la création du monde qui est le fondement de la foi. C'est-à-dire, ce qui est au niveau de la vérité se manifeste, devient existentiel au niveau de l'existence, plus encore de la réalité de l'existence. Et de subjectif, ça devient objectif. Et ce qui est parallèle dans la deuxième explication, c'est que au mouvement de l'invocation du nom de Dieu par l'homme se substitue le mouvement de la révélation de Dieu à la conscience humaine. C'est cela qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Et c'est cela qui va spécifier, donner le caractère spécifique, le yachid, okay, la tradition juive, hébraïque, d'abord, de toutes les autres traditions juives. Je voudrais citer un enseignement du Kuzari, c'est que il y a des traditions religieuses qui se présentent, je ne dis pas qu'ils se prétendent, ce serait un tout autre débat, okay, mais qui se présentent comme étant dérivées de la révélation biblique, en particulier, bon, essentiellement, c'est la chrétienté d'un côté, l'islam de l'autre. Mais le Kuzari explique très exactement qu'il s'agit de philosophie religieuse et qu'il n'y a qu'une véritable religion dans l'ordre de la religion révélée, c'est la Bible hébraïque. Ce que le mouvement culturel de l'islam ou le mouvement culturel de la chrétienté en ont fait dans leur religiosité naturelle de l'aller de l'homme vers Dieu, c'est le propre de la théologie chrétienne ou de la théologie musulmane. Mais l'expérience propre à l'hébreu, encore une fois, ce n'est pas l'aller de l'homme vers Dieu. L'hébreu, à l'échelle individuelle, donc le juif, est capable de connaître cette expérience. Mais elle est subjective. Mais ce qui spécifie, encore une fois, le fondement de la foi d'Israël, c'est le mouvement inverse, qui lui est objectif. Et alors, pour récapituler ce lien entre ces deux analyses, tout se passe comme si, jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, on ne connaît que l'idée de Elohim 1, ce qui spécifie le monothéisme hébreu jusque-là. Tous les hommes ont eu, c'était le temps privilégié de la relation entre la créature et le créateur à travers les manières dont chaque manière d'être homme a vécu cette relation. Nous vivons dans un temps d'occultation totale depuis l'arrêt de la prophétie. Mais en ce temps-là, toutes les manières d'être homme avaient un certain cheminement de cette allée de l'homme vers Dieu. Et parmi toutes ces manières-là, il y avait une spécifique, la lignée hébraïque, depuis le premier homme jusqu'au peuple sorti d'Égypte, à travers toutes les péripéties que précisément ce récit de la Torah nous raconte, et qui était que ce Dieu visé par l'exigence d'un sens au monde, de la part de l'homme, est un Dieu un, à la fois créateur du monde devenu la nature, et celui qui révèle les valeurs de l'idéal moral. Je le formule en termes hébraïques. Dans d'autres expériences religieuses, ça serait formulé en de tout autre terme. Mais c'est l'essentiel pour notre sujet. C'est-à-dire, tout se passe comme si, jusqu'à la sortie d'Égypte, on a connu vraiment la relation entre l'homme et Elohim, le Dieu créateur. À partir de la sortie d'Égypte, la manifestation qui se dévoile, c'est que ce Elohim que l'on connaissait, auquel on se référait dans la foi hébraïque de ce premier temps, auquel toutes les expériences religieuses se référaient sans le savoir à travers leur défigure idolâtre, eh bien, cette manifestation va changer, c'est Hachem qui se dévoile. Là, c'est pourquoi je vous annonçais que ce moment de l'analyse, ce serait un peu plus difficile. Je me base donc sur le Kuzari du Dalévi, parce que je me réfère à deux termes différents dont l'hébreu de la Bible se sert pour désigner le même Dieu qu'elle désigne. Donc, Elohim, le créateur dont on sait qu'il est le fondement du monde, dont les Hébreux savent très rapidement, les seuls parmi toutes les lignées humaines, qu'il est un en lui-même, qu'il est non seulement unique, comme l'ont gardé les Sémites en général, mais qu'il est un en lui-même, et qu'il est mêmement créateur du monde devenu la nature dans lequel notre existence se situe, et d'autre part, révélateur des idéaux de la morale, parce que le problème de l'histoire, selon cette intuition sémite d'abord, mais surtout hébraïque, le problème de l'histoire, c'est de résoudre le problème moral. Et alors, à partir de la sortie d'Égypte, c'est le dévoilement du Shemavaya, c'est-à-dire de Dieu se révélant comme nous libérant des conditionnements de la nature qu'il a lui-même créée, et nous pénétrons là dans la tension interne, à la fois monothéiste, hébraïque et donc juive. L'expérience nous montre que chaque fois que nous étudions ce thème d'enseignement, nous nous heurtons à la difficulté du fait que, à travers les derniers siècles de notre dispersion, nous sommes déshabitués de penser les valeurs du judaïsme en hébreu, nous les pensons à travers les catégories de culture étrangère, et il est parfois difficile de percevoir qu'il y a là deux termes radicalement différents pour désigner la même entité, le Dieu un. Mais, encore une fois, à un premier niveau connu comme ayant créé le monde et comme étant garant des lois du fonctionnement du monde, à un deuxième niveau se révélant, se dévoilant pour le peuple avec qui, et la Bible explique les raisons, la Torah explique les raisons, il est en alliance d'histoire, l'alliance entre ce Dieu un et Israël, et donc se dévoilant comme étant celui qui nous invite à nous libérer des conditionnements du monde que lui-même a créé en tant que créateur. J'espère que je suis arrivé, bien que de façon limite, à essayer de vous faire percevoir la tension qu'il y a entre ces deux noms, ces deux mots par lesquels la même Bible, le même message parle de l'unité de Dieu, Hachem ou Elohim, que l'un c'est l'autre, dans ce sens-là, que Hachem c'est Elohim. Mais lorsqu'il se manifeste comme Elohim, c'est pour être le garant du fonctionnement des lois de la détermination du monde, ou disons des lois déterminées du conditionnement du monde. Lorsqu'il se révèle comme Hachem, c'est pour nous inviter à nous libérer de ce conditionnement. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le temps de la création du monde, jusqu'au temps de la révélation, de la sortie d'Égypte et de la révélation à Israël comme collectivité sortant d'Égypte, il y a eu ponctuellement des révélations de Dieu en tant que Hachem à tel ou tel individu, et en particulier à Abraham. Alors là, je vous renvoie à l'histoire d'Abraham, telle qu'elle est racontée dans le livre de Bereshit, et au verset très important qui nous indique cette mutation religieuse qu'Abraham, déjà en tant qu'individu fondateur de la nation hébraïque, libéré de l'exil de Ur-Kasdim, de l'exil de la première époque de l'histoire des Hébreux. C'est le verset Ve'emin Bashem. Et Abraham eut foi en Hachem. Et c'est ce nom de Hachem qui est celui qui éclate, qui se dévoile, qui se révèle à la génération de la sortie d'Égypte. Lorsque Moïse est lui-même objet de cette révélation qui vient de haut en bas, au moment de la vision du buisson ardent, et qu'il demande en tant que, sous quel nom te révèles-tu à moi? C'est ce nom que Dieu révèle, que Dieu lui révèle. Et nous sommes à la 26e génération de l'histoire du monde, et comme vous le savez, la valeur numérique du schéma Vaya, c'est le nombre de 26. Il y a là un événement de dévoilement de Elohim en tant qu'Hachem. À partir de ce moment-là, la foi hébraïque est fondée définitivement et irréversiblement. C'est Hachem qui est Elohim. Est-ce que c'est bien clair? Il y a là une mutation d'identité qui fait qu'une des manières d'être homme parmi toutes les autres va au-delà de ce qu'a été la religiosité jusqu'en ce temps-là, même parfois et pourquoi pas souvent authentique en tant qu'elle se référait à Elohim, créateur du monde. Mais ça, c'est une foi devenue préhistorique à partir du moment où cette idée vraie est devenue réelle dans l'événement et où Elohim se révèle en tant que Hachem. J'espère que vous avez suffisamment entendu clairement cette différence au niveau des noms hébreux. Le chidouche, la chose nouvelle que la Torah nous raconte dans la vocation d'Abraham, c'est ce verset que j'ai cité tout à l'heure, « Ve'emin Hachem », ça éclate. Hachem se révèle à Abraham, vous reprendrez l'histoire d'Abraham, se révèle à Abraham par révélation de pressentiments successifs pour lui faire entendre qu'Abraham, cette même identité, c'est le même homme, Abraham c'est Abraham, mais dans le premier stade, difficilement arrivé à entendre, et une promesse. Elohim, lorsqu'il se révèle, ne se révèle pas sous forme de promesse, il se révèle sous forme de la transcendance absolue de celui qui est garant des lois du fonctionnement du monde. Et dans les lois du fonctionnement du monde, il n'y a pas que promesse. Il n'y a pas de promesse. Sinon, la promesse que les lois ne changent pas. La fidélité du Créateur au statut qu'il a donné à sa créature, à sa création, qui garantit la liberté de la créature dans sa création. El Neeman, Dieu fidèle à sa propre volonté. Alors je suis assuré que les lois du monde ne changent pas. Alors la liberté est possible parce qu'il y a une base de stabilité dans la fidélité de Dieu à sa création. Mais voilà que cette création qui fonctionne comme elle fonctionne, et ça a été le piège de l'idolâtrie, se fait prendre pour son créateur. Elle masque son créateur. C'est là qu'apparaît l'idolâtrie. Lorsque l'homme, cherchant Dieu à travers son monde, ne trouve que le divin du fonctionnement du monde. Je répète, et c'est encore une fois une précision de Judas Lévi, cherchant Dieu, celui qui est Dieu, l'homme ne trouve que le divin de la volonté de Dieu à travers les lois du fonctionnement du monde et les adore comme tels, commencent à naître les idolâtres. Et c'est pourquoi, simultanément, corollairement, la brisure de l'idolâtrie, la mutation d'identité à partir d'Abraham et en Israël avec Moïse à la sortie d'Égypte est parallèle de cette expérience. Il n'y a que celui qui commence à pressentir la possibilité de la libération des lois qui déterminent l'asservissement au conditionnement du monde qui peut connaître Hachem au-delà de Elohim. La tension de l'unité de la foi juive hébraïque, c'est que l'un, c'est l'autre. Mais dans un sens précis, c'est Hachem qui est Elohim. Elohim n'est pas Hachem. Est-ce que c'est clair? Bon. C'est-à-dire, la foi juive consiste à dire celui qui mène notre histoire jusqu'à la libération ultime des conditionnements du monde, le monde à venir, c'est lui qui a créé le monde. Mais à deux niveaux différents, dans cette tension d'unité. La formule inverse, c'est la formule du panthéisme. Okay, c'est le garant du fonctionnement impersonnel du monde qui est celui auquel nous croyons dans nos espérances de libération, pas de libération. Cette religion panthéiste est en réalité athée. Elle est déiste, mais elle est athée. Parce que ce n'est pas quelqu'un qu'elle rencontre, mais l'impersonnel du fonctionnement qu'il appelle divin. Parce que l'homme, même athée, ne peut pas ne pas percevoir le caractère divin de l'aventure dans laquelle il est inséré dans l'histoire du monde, tous ces enthousiasmes que dans la culture moderne on n'arrive pas à dépasser le niveau poétique, mais tous ces enthousiasmes dans le sens étymologique de la spiritualité des cultures anciennes, c'est la rencontre du divin dans le monde. On n'a jamais rencontré celui qui est Dieu dans ces idolâtries. Et vous voyez donc que la formule inverse, c'est Elohim qui serait Hachem, est une formule piège qui mènerait au panthéisme. Et nous avons énormément de philosophies juives hérétiques qui sont tombées dans ce piège, en particulier la philosophie de Spinoza. On fait une petite parenthèse, comme j'ai l'habitude de dire, un sujet pour lui-même. Et je reviens en tout cas à notre sujet général. Il s'est produit quelque chose qui est figuré, préfiguré par l'expérience d'Abraham. Et cette expérience d'Abraham que Véhémine, Bachem, Abraham et Émine, Bachem, si vous avez besoin de la référence du verset, vous le retrouverez dans l'histoire d'Abraham, eh bien, c'est tout un peuple qui va l'avoir et alors est fondée la foi d'Israël. Je pourrais reprendre toute cette première partie de l'analyse dans d'autres dimensions. Je crois que ça suffit pour éclairer cela, je le résume. Oui. Pourquoi c'est l'événement de la sortie d'Égypte qui est le fondement de la foi d'Israël? Parce que ce qui était connu en vérité de vérité est maintenant expérimenté en vérité de réalité. Alors commence l'histoire d'Israël et ce qui me mène au bord de deuxième analyse. J'espère avoir fait comprendre en quoi consiste ce Véhémine Bachem d'Abraham. Le grand mérite, le mérite colossal d'Abraham, arrivant à se défaire, à se déconditionner de cette fatalité des conditionnements du monde qui procède de la volonté du Créateur comme Créateur. Et on pourrait aborder ici une définition générale de l'idolâtrie ou du paganisme, c'est la même chose à deux niveaux différents, qui est qu'on a divisé, on a divinisé, on a reconnu la divinité, mais on a divinisé les lois qui président au fonctionnement de l'histoire du monde, en ramenant à l'être de nature impersonnelle, l'être du vivant, l'homme lui-même, et en l'asservissant à la fatalité de cet impersonnel, les lois du conditionnement de la création. J'espère avoir fait comprendre, à travers le style même des analyses que je vous propose, que je parle en cohérence monothéiste, bien évidemment. Et on ne peut pas ne pas remarquer que précisément les religions idolâtres de cette Égypte, d'où il fallait sortir, étaient de religions de divinisation du fonctionnement des lois de la nature. Nous n'avons pas à entrer dans le détail de la théologie païenne, mais je peux me borner à formuler cela ainsi. Qu'est-ce qu'il y avait en tant qu'expérience de religiosité? Comment la définir? Comment la situer? Eh bien, c'était une expérience de religiosité très intense qui consistait à adorer le divin, pris au piège des lois impersonnelles du conditionnement du monde. Vous voyez là se décrire toute cette atmosphère de fatalité de l'astrologie ancienne, qui était le fond même de la religiosité païenne, de ces grandes civilisations. J'espère avoir indiqué suffisamment qu'il n'y avait pas rien dans ce rien de leur croyance. Je veux dire que ce n'était pas pour rien que ces grandes civilisations ont été grandes. Et qu'est-ce qui nous permet d'expliquer pourquoi elles ont eu une telle importance? Et bien que sous forme laïcisée de notre temps, depuis l'arrêt du temps de la prophétie et du dévoilement des choses cachées, elles continuent, en changeant de style, elles continuent à constituer la culture universelle en général. Et pourquoi vous pouvez avoir dans la culture contemporaine, dans la société culturelle contemporaine, des déistes qui sont athées? Je ne sais pas si l'expression vous paraît suffisamment claire. Okay, c'est-à-dire la perception du divin dans ce sens de l'aller de l'homme vers Dieu, mais il ne trouve que le divin dans la création, et qui sont très littéralement athées du point de vue de l'autre sens de la révélation, celui qui est propre à Israël, de Dieu se révélant à l'homme. Pourquoi il y a une difficulté? Eh bien, c'est parce que, de façon objective, cet ordre de révélation, le deuxième, de Dieu vers l'homme, qui était véhiculé par l'expérience de la prophétie, a cessé quand a recommencé la dispersion d'Israël. Puisque vous savez qu'il n'y a eu de prophétie dévoilée que lorsque Israël est sur sa terre, ou est concerné par sa terre. Et dès qu'Israël est dispersé, la prophétie hébraïque cesse. Elle recommence quand Israël se rassemble. Et pourquoi l'objectif du rassemblement d'Israël sur sa terre, c'est de rendre de nouveau disponible la prophétie à l'humanité tout entière, à partir d'Israël. Et si effectivement l'humanité est préoccupée d'Israël, c'est plus qu'une préoccupation, c'est une obsession. Nous sommes des sionistes, mais ils sont obsessionnistes. Et là, c'est bien parce que l'humanité entière est en quête de ce qu'Israël est censé donner au monde, ce qui est, dans la préférence au temps hébraïque, à proprement parler, le contenu de la névoie, le contenu de la prophétie dont l'histoire humaine a besoin pour être éclairée dans le tunnel dans lequel elle se développe. Nous savons par pressentiment de souvenir qu'au bout du tunnel, il y a une lumière. Mais c'est précisément à charge de ceux qui ont cette boussole qui mène vers la lumière d'indiquer par quel côté elle passe. Vous avez compris ces choses obscures, parce que vous avez une lumière. Voilà donc, encore une fois, l'importance de cet événement de la sortie des yeux. Je vais tout de suite me brancher sur un texte du Talmud pour essayer de vous montrer que cette expérience de la foi que nous rend possible le fait que la sortie d'Égypte a eu lieu, eh bien, continue à rester une donnée de foi. Et là, je voudrais éclairer un peu des perplexités de la société juive contemporaine, et en particulier israélienne, et même, et peut-être surtout, je dirais, dans le monde juif qui se définit par la relation à la Torah. Et c'est un texte que certains d'entre vous ont déjà étudié dans le Talmud, et auquel je me réfère habituellement pour essayer de montrer cela. Alors vous allez me permettre un petit quart d'heure d'érudition talmudique, accrochez-vous bien, je vais essayer de simplifier, mettez vos ceintures. de simplifier au possible, mais pour essayer de mettre cela en évidence, je vous demande une minute pour retrouver la page. Oui, voilà de quoi il s'agit. Je vous ai indiqué tout à l'heure que la mention de la sortie d'Égypte est renouvelée chaque jour, et le soir et le matin, au moment de la prière. C'est-à-dire la référence devant quel Dieu sommes-nous, nous trouvons-nous pour prier, eh bien, la réponse nous est donnée par la liturgie de façon très claire et sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas une indication d'ordre théologique, philosophique, métaphysique, un catéchisme, mais il y a une référence historique. Nous nous trouvons devant celui qui a délivré Israël de la serviteur d'Égypte, devant le Gaal Israël. Et tout de suite, on commence Adonai Isfatai Tiftar, la tfila. Et, encore une fois, un théologien, un philosophe s'attendrait à une réponse. Nous nous trouvons devant celui qui a créé le monde. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, puisque c'est lui le même. Seulement, nous sommes tellement loin du temps de la révélation qu'il n'y a que de très rares consciences qui soient capables de comprendre qu'est-ce que ça signifie, le créateur du monde. N'a aucune idée à quel point ce sont vraiment des théologiens d'une très grande envergure qui peuvent percevoir qu'est-ce que c'est que ce contenu de la foi que le monde a un créateur. Et comme vous le savez, je le dis souvent, une tradition ne confie pas son message à des notions élitistes dont ne sont capables que des élites. Une tradition confie son message à une collectivité. Et par conséquent, ce message doit être reçu par tous dans la collectivité, par définition, sinon il y aurait une injustice élitiste de fond. Je sais bien qu'il y a une blague en français, que l'israélite, c'est celui qui sera l'élite, mais ça c'est une prophétie. Okay. Mais dans tous les cas, c'est pas faux. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, vous êtes l'élite du monde. Okay. Mais c'est une prophétie. Et il est bien clair que la tradition a décidé, au moment de l'arrêt de la prophétie, plus exactement au moment de la destruction du temple, que la référence de la foi sera